Donc, je te laisse la parole, Frédéric, docteur en sociologie. Merci.
Bonjour. Pour commencer, je vais vous donner quelques extraits d'entretien de mon travail doctoral qui portait sur la pratique infirmière en psychiatrie, où j'ai interrogé à la fois des infirmiers, mais aussi d'autres soignants, notamment des médecins, et qui m'ont livré par entretien, notamment, des éléments de leur souffrance au quotidien, de leur activité. Alors, une infirmière du premier état en psychiatrie me disait par exemple « La violence des patients, je la comprends, mais ça me met hors de moi que l'institution me mette mal à l'aise. Notre travail est suffisamment difficile comme ça. Après, on nous parle de maltraitance comme si on n'était que ça. » Autour d'un médecin également exerçant en psychiatrie, on nous demande beaucoup de codifications, on s'informatise. Cette manière de tout quantifier, de tout logicialiser. On est dans une société où tout le monde doit entrer dans une case. On est formaté et il faut que tout soit formaté. Une autre infirmière de secteur psychiatrique de 55 ans qui nous dit « J'ai connu une certaine façon de bosser avec ses facilités, c'était agréable. Tu te rends compte de tout ce que tu as perdu. Sans être dans le passé, avant, les conditions de boulot étaient moins compliquées. Maintenant, on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Il y a toujours une pression. S'il y a une erreur, c'est en première ligne. » Et enfin, une jeune infirmière IEE de 22 ans. Le point de l'institution, je ne le connaissais pas, mais au final, on n'est que des pions et ils ne se gêneront pas avec nous. Ils ont trouvé une nouvelle carte de santé, est-ce que c'est celle qui va nous lisser? On va nous mettre du plomb dans la tête. Voici comment parlaient les soignants de leur activité il y a maintenant quelques années, au moment de mon travail de terrain sur la pratique infirmière en psychiatrie. La souffrance dont ils témoignent est notamment le produit d'une violence organisationnelle bien connue des professionnels de santé. Si le travail protège en tendance du suicide, et qu'il y a toujours eu plus de suicidés parmi les chômeurs que parmi les employés de France Télécom, il n'empêche qu'une plainte s'intensifie dans les mondes du travail. Le travail est créateur d'une usure mentale et d'une souffrance particulièrement prégnante dans les organisations, ceci en particulier depuis que le travail est dans la ligne de mire de la nouvelle gestion publique. Quelle est cette violence organisationnelle qui infuse au travers de la nouvelle gestion publique? Quelle transformation du travail et de l'activité sont repérables dans le monde de la santé? Quels sont les effets de cette nouvelle gestion publique sur le travail à l'hôpital psychiatrique? Je vous propose d'étudier le cas des soignants de la psychiatrie française pour voir comment le travail est mis à mal par la nouvelle gestion publique. En 91, Lorna Rose, une sociologue américaine, publiait aux États-Unis un ouvrage qui s'appelle « Empty Beds, vide des lits ». Elle tirait la sonnette d'alarme et décrivait la manière dont les soignants de la psychiatrie ne parvenaient plus à tenir leur poste de travail et voyaient leur rôle de réduit non pas à celui de gardien d'asile, mais à celui de gestionnaire des flux de patients. Dès l'introduction de son ouvrage, elle note la manière dont les membres de cet hôpital disent avoir un mandat impossible à tenir, devant à la fois se décharger des patients rapidement et les traiter correctement. Le constat de Norman Rhodes doit aujourd'hui être fait en France. Le mandat des soignants y est impossible. La nouvelle gestion publique des hôpitaux induit un nouvel ordre psychiatrique, celui de devoir accompagner au public les patients vers la sortie de l'établissement, celui de libérer les lits, à défaut de pouvoir libérer les patients. Ce mandat impossible peut se résumer en un néologisme que j'ai appelé ex-compagnon. À l'échelle des unités, mais plus largement des services et des pôles, offres et demandes d'hospitalisation sont contrôlées avec l'instrument, la phylaxie, la durée de séjour, la population partie de pathologie. Ceci centralise le traitement quantifié des flux de patients. Le suivi comptable de ces flux met en concurrence les services en fonction de leur capacité à traiter le plus efficacement possible les demandes d'hospitalisation qui leur sont adressées. La mise en concurrence des services et la pression à juguler une demande considérée comme difficilement soutenable se reportent sur le travail des soignants, bien sûr. Les réformes inspirées de la nouvelle gestion publique ont donc transformé le système de santé français. La psychiatrie n'est pas en marge de ces mutations. On constate même une pénétration de la politique du chiffre dans le monde psychiatrique. En effet, les patients sont qualifiés d'entrants, de sortants, de subsistants en fonction d'un statut. Celui-ci est lié à la place qu'ils occupent dans la carrière hospitalière pensée en termes de flux. Contrairement à la catégorie de subsistants, les catégories d'entrants et de sortants, elles sont univoques, c'est l'entrée et la sortie de l'hôpital. La notion de subsistant est plus ambiguë. Les subsistants sont les patients qui ne peuvent pas être hospitalisés dans leur unité d'affectation principale et qui sont hospitalisés dans une autre unité. La référence aux subsistants, elle témoigne de la mise en concurrence des différents services en fonction de la capacité à juguler la file active. L'apparition de cette nouvelle sémantique nous indique la force de pénétration du monde médical-psychiatrique par le monde managérial. Ces transformations, elles redéfinissent bien sûr l'expérience des soignants. L'urgence à faire sortir les patients de l'hôpital dévie les pratiques professionnelles héritées de la psychiatrie de secteur. Plus qu'une ambiguïté du quotidien, l'expérience actuelle du travail des soignants est marquée par le paradoxe. La situation actuelle de la psychiatrie... La situation actuelle de la psychiatrie publique conduit, en effet, paradoxalement, à faire ressurgir des images de l'asile et de conférer une forme renouvelée aux violences en rapport entre soignants et soignés. En effet, dans l'hôpital des années 50, que décrivait un sociologue appelé Arnaud Lefebvre, les patients étaient condamnés à une vie de reclus en institution, ils ne sortaient pas. Les patients d'aujourd'hui, qui séjournent pendant des durées variables, et sont amenés un jour à quitter l'hôpital. Leur présence à l'hôpital s'est même raccourcie et se limite actuellement au seul temps de la crise. La durée de leur séjour, elle est codifiée, elle est comparée à une durée moyenne de séjour. Ainsi, le statut de l'hôpital psychiatrique a profondément évolué. Il tend, ce jour, à une prise en charge du patient dans les seules phases aiguës de sa maladie. Les séjours des patients sont ainsi marqués par leur brièveté. Ce recentrement de l'hôpital sur la prise en charge des malades pendant le temps de leur crise, il est notamment le produit des transformations issues de la nouvelle gestion publique. À partir des années 80, il s'agit de faire fonctionner la psychiatrie publique sur le modèle de l'hôpital général. L'hôpital est en outre appréhendé par les pouvoirs publics sous l'angle de ses coûts et non seulement de sa mission. Aujourd'hui, ces transformations de l'hôpital, elles n'autorisent plus les soignants à exercer leur métier selon les idéaux de la psychiatrie de secteur, dont ils sont pourtant toujours les fidèles. Ce malaise dans la transmission vient du fait que les corps de principes et de méthodes, c'est-à-dire les manières de faire, à l'œuvre dans le soin, ne peuvent aujourd'hui plus s'exprimer du fait de la pression de vie. Cet héritage impossible, qui débouche pour les soignants sur une expérience paradoxale ou paradoxante, comme dirait Vincent Gaujac, travail en psychiatrie. Ce paradoxe, il réside en particulier dans la cohabitation d'une injonction à devoir libérer des vies d'une part, et d'autre part à l'attachement des soignants à ce qui relève de leur vrai boulot, du travail qui compte pour eux, à savoir le soin et sa démarche clinique. Ce système paradoxal, il se répercute bien évidemment sur la prise en charge des patients. La manière dont les soignants peinent à tenir leur rôle trouve un fort écho dans l'expérience que font les patients de l'hôpital psychiatrique. La fragilisation des rôles des différents acteurs de l'hôpital oblige les soignants à inventer de nouvelles régulations, en particulier dans leur relation avec les patients. Une part importante de l'activité des soignants consiste en particulier à gérer les effets d'une coprésence continue et pesante avec des patients toujours plus en crise. Pour garder le contrôle sur les patients, les soignants construisent une série de frontières qui les séparent des malades. Les soignants sont très contraints de traiter collectivement les patients, alors même que les instruments qu'ils mobilisent, les cadres de soins, la psychopharmacologie, etc., appellerait à un traitement individualisé des malades. Parvenant difficilement à contenir les patients hospitalisés dans leur unité, les soignants multiplient les repérages des malades qui outrepassent les règles de comportement qui leur sont imposées. La frontière entre soignants et patients est ainsi sans cesse rappelée par l'imposition de règles rugueuses dans l'unité de soins, mais aussi par le marquage des corps, par l'imperméabilité du monde des soignants à celui des malades. Ce travail de frontière, il renforce l'impression de violence du quotidien psychiatrique. Les règles édictées par les soignants, elles sont inflexibles. La distance séparant soignants et soignés est inscrite dans le visible, en particulier les habits qui enveloppent les corps, affichent les affiliations, les patients portent le pyjama, les soignants la blouse. Un travail d'incorporation de la maladie mentale par des médicaments inscrit en outre dans les corps l'appartenance au groupe des patients. Les récits des soignants dressent enfin le portrait de malades étrangers à leur nom. L'intensification du travail des infirmiers conduit donc la mission de l'hôpital psychiatrique. Les instruments au service du soin, hérités de la psychiatrie de secteur, ne permettent actuellement pas un traitement égalitaire des patients. En conséquence, les infirmiers opèrent un sous-pesage afin de déterminer auprès de quels malades s'investir et quels patients délaisser. Ne bénéficiant pas de suffisamment de temps pour prendre en charge l'ensemble des patients, les soignants de la psychiatrie sont contraints de choisir entre d'une part accorder un temps restreint à chaque patient, et d'autre part, accorder un temps plus important à un nombre limité de patients. La majeure partie des soignants choisissent la seconde option. Plutôt que de s'investir de façon insatisfaisante auprès de l'ensemble des patients, Ils préfèrent procéder à la sélection d'un faible nombre de patients auprès de qui ils exercent leur métier en clinicien. Le soin n'est donc pas déployé de façon égalitaire pour chaque patient, la dimension clinique du travail n'est mobilisée que dans quelques cas. Cette sélection, elle n'est pas le fruit du hasard. Un processus continu de sous-pesage est conduit par les infirmiers et permet d'organiser la prise en charge clinique de quelques patients et la sortie ou le faible engagement de l'équipe soignante, médicale, auprès des autres patients. Le sous-pesage, il obéit d'une part à des critères sociaux et culturels, l'âge, l'ancienneté dans la maladie, l'origine ethnique des malades, et d'autre part à des critères moraux qui viennent distinguer les malades qui veulent mais qui ne peuvent pas, des patients qui peuvent mais qui ne voudraient pas. Pour les premiers, ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas, une carrière de patient méritant est offerte par les soignants dont les pratiques et les discours s'inscrivent dans une économie de la compassion. Pour les seconds, ceux qui peuvent mais qui ne veulent pas, une carrière de patient indigne de la clinique leur est imposée et une économie du soupçon réside à leur prise en charge. Les soignants mobilisent alors l'équipe médicale pour des recadrages réguliers, voire pour l'organisation de réduction des unités de soins. Un travail de sous-pesage moral de patients reste ainsi une frontière entre différents types de patients, traités de façon différenciée au sein de la psychiatrie publique hospitalière. La politique du chiffre a donc indéniablement fait son entrée en psychiatrie. Plus lentement peut-être que dans d'autres domaines de la vie sociale, elle est un point prégnant aujourd'hui à l'hôpital. Face à ces nouvelles contraintes, les soignants n'ont d'autre choix que de s'adapter. Pour la plupart, ils ont fait le choix de garder le corps du principe et une méthode qui guidait leur pratique par le passé. Ils adaptent alors leur clinique et dressent malgré eux une série de frontières les séparant des patients, les protégeant autant que faire se peut de la difficulté à gérer une pluralité de malades en crise aiguë dans une seule unité de soins. Ces soignants résistent à l'imposition d'un rôle de soignant se limitant à celui de gestionnaire de crise, mais ils participent ce faisant à la sélection des patients dont les conditions sont permises par la nouvelle gestion publique. La pression des vies a transformé en profondeur leur mandat. Devant par le passé libérer les patients, ils doivent dorénavant libérer les vies. Ces transformations du quotidien de la psychiatrie sont bien connues des acteurs de la psychiatrie. Elles font l'objet d'une résistance silencieuse, parfois d'une résistance plus ouverte, comme en ce moment. La clinique, cœur du métier des soignants de la psychiatrie, jusqu'alors était protégée. Elle est aujourd'hui traversée par des contraintes extérieures à la relation de soins. La violence des années 2000 est celle d'un soin traversé par des injonctions managériales intenables. La politique du chiffre transforme la violence institutionnelle en une violence organisationnelle, tout aussi néfaste pour le soin des patients et par ricochet pour les professionnels. Les pratiques des soignants attestent de leur résistance sous-tendue par une forme de colère. Les raisons de cette colère proviennent d'un refus du travail mal fait imposé par la nouvelle gestion publique. Les soignants souhaitent continuer d'exercer le métier, leur métier, selon les normes qu'ils ont héritées de leurs prédécesseurs. On sait combien le métier travail représente un élément central dans la construction de soi. L'injonction contemporaine au bien-être et au bonheur entre en contradiction avec cette injonction nouvelle au travail mal fait. Reste que la responsabilité du mal-être des personnes est vécue de façon individuelle et non collective. Une des raisons de la colère des soignants, une des raisons de l'usure mentale des professionnels de santé, vient de cette équation difficile à résoudre, qui les pousse à moins bien mener leur travail tout en investissant une fonction centrale dans la construction de leur soi. À l'ombre de la nouvelle gestion publique, le travail ne peut qu'être mal fait et faire naître une souffrance morale qu'il conviendrait de discuter collectivement. C'est pourquoi je vous remercie d'ouvrir cette journée de discussion sur le travail et sur la manière dont les uns et les autres peuvent tenir un poste de travail aujourd'hui. Voilà.